théologie mystique par le père Philippe à Saint-Joseph le 16 avril 85.
On hésite toujours de se mettre en harmonie avec le temps liturgique. Je crois qu'il vaut mieux continuer l'évangile de Saint Jean là où on était resté, puisque selon le rythme dominicain, pendant tout le temps de Pâques, on fait mémoire de la croix, ce qui est très beau du reste. C'est une très vieille tradition, ça. Que le temps de Pâques implique toujours une mémoire de la croix. Parce que ça nous fait comprendre que la résurrection, elle est vécue, mais nous sommes toujours, nous, dans le temps de la croix. C'est bien évident. La résurrection, elle sera vécue un jour. Elle est déjà vécue au plus intime de notre cœur. Mais nous pouvons avoir une fête de Pâques qui reste dans les larmes. Ça existe de temps en temps. Ça existe plus qu'on ne pense. Et il peut y avoir le mystère de la résurrection qui continue du reste, de nous mettre dans cette souffrance du mystère de la croix. C'est pour ça que je crois que ce n'est pas du tout anachronique, si vous voulez, de continuer le chapitre 17, la grande prière sacerdotale. Du reste, la grande prière sacerdotale demeure toujours actuelle. Elle est éternelle, en ce sens que nous découvrons les intentions profondes du cœur de Jésus dans son sacerdoce. Jésus parla ainsi, et levant les yeux au ciel, il dit: Père, elle est venue l'heure, je reprends, hein, et puis nous continuerons. Elle est venue l'heure, glorifie ton Fils. Et ça, c'est très propre, je vous l'ai dit, à l'évangile de Saint Jean. C'est très propre aux orthodoxes, et ça doit être très propre pour nous. C'est-à-dire que le mystère de la glorification est toujours présent. La gloire, elle commence avec la croix et elle s'épanouit dans le mystère de la résurrection. Glorifie ton Fils. Jésus est glorifié dans le mystère même de la croix. Puisque le mystère de la croix est la victoire de l'amour. Et la gloire divine, c'est la victoire de l'amour. C'est pas autre chose que la victoire de l'amour. Et donc, ce que Jésus demande, c'est cette victoire de l'amour, c'est-à-dire que l'amour puisse être victorieux à l'égard de toutes les conséquences du péché, et que toutes les conséquences du péché soient dépassées par l'amour. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Le Fils demande au Père d'être glorifié pour que lui-même glorifie le Père. C'est très beau, parce que ça nous fait comprendre ce que c'est que la glorification divine. On ne garde rien pour soi, mais on donne tout au Père. Une gloire humaine, on la garde. C'est pour ça, du reste, qu'elle ne dure pas. La gloire humaine, c'est quelque chose d'éphémère. La gloire divine est éternelle. Et elle est éternelle, pourquoi ? Parce que, justement, c'est la gloire du Fils qui est glorifié comme Fils bien-aimé, et qui, en même temps, glorifie le Père par la gloire même qu'il reçoit du Père. Et c'est ce grand mystère de la très sainte Trinité où le Fils reçoit tout du Père, glorifie ton Fils, et où le Fils donne tout au Père. Il y a le flux et le reflux. Et le flux et le reflux, c'est bien le mystère de la très sainte Trinité. C'est un petit vestige, hein, du mystère de la très sainte Trinité qui doit nous aider à comprendre comment il y a un premier mouvement où tout est donné, il y a un second mouvement ou tout de nouveau. Celui qui a tout reçu donne tout. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'à tout ce que tu lui as donné, il donne à cela la vie éternelle. Nous découvrons là la mission propre de Jésus. La mission propre de Jésus, c'est de donner la vie éternelle. Alors vous voyez, c'est très important pour nous, si nous suivons ce que le Saint-Père lui-même dit, la mission de l'Église, c'est la même mission que celle de Jésus. Si la mission de Jésus, c'est de donner la vie éternelle, la mission de l'Église, c'est de donner la vie éternelle. L'Église n'a pas d'autre mission que de donner la vie éternelle. Elle n'est pas faite premièrement pour les biens temporels. Toujours la tentation du messianisme temporel, il ne faut jamais l'oublier. Et Jésus, dans sa prière sacerdotale, demande justement que cette tentation soit dépassée. Puisque ça nous est dit d'une façon si nette, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, le pouvoir sur toute chair, la domination sur toute chair, c'est pas du tout pour qu'il y ait comme un pouvoir qui demeure, qu'on se glorifie sur ce pouvoir, afin que tout ce que tu lui as donné, il donne à cela la vie éternelle. Donc, s'il y a une certaine domination sur le temporel, c'est pour que ce temporel s'ouvre à l'éternel. Il y a un jeu extraordinaire au point de vue divin entre le point de vue de la chair, c'est la contingence de la chair, c'est la corruptibilité de la chair, et la vie éternelle, le point de vue d'éternité. Vous voyez, le temps et l'éternité que vous retrouvez ici, et que vous retrouvez le lien dans, par le point de vue de la grâce. Parce que je crois que c'est le propre, justement, de la grâce chrétienne, c'est de maintenir dans l'éternité la succession du temps. Tant qu'on est sur la terre, nous avons déjà l'éternité en nous, et nous sommes et nous restons dans le temps. Alors, on comprend très bien, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'à tout ce que tu lui as donné, il donne à cela la vie éternelle. Telle est l'éternelle vie. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vie qui nous est donnée par Jésus ? Quelle est cette vie que l'Église doit communiquer aux hommes d'aujourd'hui ? Telle est la vie éternelle. Qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Toute la mission de l'Église, c'est de faire connaître le Père. Comme toute la mission de Jésus, c'était de faire connaître le Père. La vie éternelle, c'est de connaître Dieu, connaître le Père. Comprenons bien, il ne s'agit pas d'une connaissance spéculative, une connaissance philosophique, quoiqu'elle n'ait pas rejetée. Hein. Les trois sagesses, ne l'oublions pas, ce n'est pas du tout rejeté. Connaître Dieu comme acte pur, c'est glorifier le Père. Ça, c'est sûr, puisque c'est mettre notre intelligence entièrement au service de la vérité. Donc, ce n'est pas du tout rejeté. La connaissance théologique n'est pas non plus rejetée, mais au terme, il faut la connaissance mystique. Et la connaissance mystique, c'est cette connaissance amoureuse, sous le souffle de l'Esprit Saint, par le don de sagesse, cette connaissance amoureuse de Dieu lui-même, cette connaissance amoureuse du Père, comme Père, dans sa paternité, dans sa fécondité de Père, et de connaître cette connaissance amoureuse par l'Esprit Saint et sous le souffle de l'Esprit Saint. C'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître le Père dans sa fécondité de Père, connaître Jésus dans sa fécondité de Sauveur. Puisque je ne peux pas connaître le Père en dehors de sa paternité. C'est dans sa paternité, c'est en tant qu'il est source du Verbe. Et je ne peux pas connaître Jésus-Christ en dehors de ce pourquoi il est venu, être sauveur, et donc être source de vie pour tous les hommes. Je crois que c'est important, cette précision, parce que ça nous aide à mieux comprendre ce qu'est la contemplation du Père. Et vous voyez, là, on voit tout de suite la contemplation, la différence entre la contemplation mystique et la contemplation philosophique. La contemplation philosophique, c'est l'acte pur. Et la contemplation mystique, c'est la paternité. C'est la paternité dans ce qu'elle a de plus, de plus grand. Source du Fils bien-aimé. Source éternelle du Fils bien-aimé. Et dans cette connaissance du Père, se réalise la connaissance du Fils bien-aimé. Celui qui est source de toute vie et de toute lumière. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jésus nous fait comprendre que la contemplation nous permet de réaliser l'œuvre que Dieu nous demande de réaliser. Et seule la contemplation permet de réaliser cette œuvre, puisque c'est une œuvre divine et une œuvre d'éternité. Nous ne pouvons pas être dans le sens de la mission du Christ, s'il n'y a pas la contemplation. Et ceci, ça nous est donné ici, dans le prologue, si on veut le comprendre profondément, on voit très bien que l'œuvre de l'Église, qui est l'œuvre du Christ, ne peut pas se réaliser sans cette contemplation du Père. Là, ça va très loin, vous voyez. Parce que l'œuvre du prêtre, c'est l'œuvre de Jésus. Et l'œuvre de Jésus ne peut pas se réaliser sans la contemplation. Le sacerdoce chrétien est un sacerdoce contemplatif. Et il est nécessairement contemplatif. Et une fois qu'on a compris ça, on prend tous les moyens pour que ce sacerdoce demeure contemplatif. S'il n'est plus contemplatif, il n'est plus chrétien. Il risque toujours alors de redevenir un sacerdoce religieux. Et quand il n'est plus qu'un sacerdoce religieux, très vite, on ne voit plus ce point de vue religieux et on tombe dans l'efficacité, la dégringolade. C'est très très net. Un sacerdoce chrétien qui demande d'être contemplatif, s'il n'est plus contemplatif, il devient sacerdoce religieux. Et un sacerdoce religieux ne demeure pas dans cette condition-là, parce que l'attitude religieuse n'est vivable que si elle est portée par la contemplation, alors on tombe dans les œuvres et dans l'efficacité. Un sacerdoce d'efficacité. Un sacerdoce qui ne voit plus que les résultats tangibles. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donnée à faire. L'œuvre du Christ, l'opus du Christ, l'œuvre du Christ, qui est l'œuvre de l'Église. Et on glorifie le Père en accomplissant son œuvre, c'est-à-dire en vivant pleinement et totalement ce que le Père veut que nous vivions dans l'obéissance au Père. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alors, je vous avais déjà expliqué, autant que nous pouvons creuser cette grande affirmation qui est tellement forte. Jésus qui dans son âme humaine, dans son âme de prêtre, dans son âme de fils bien-aimé, demande au Père d'être glorifié dans son corps et dans son âme de la gloire qu'il a eu, de la gloire qu'il a comme Verbe. Et la gloire du Verbe, c'est d'être un avec le Père dans l'aspiration de l'Esprit Saint. Et si ceci est juste, ce que je crois, nous pouvons dire que Jésus demande au Père que dans son cœur sacerdotal, il coopère à cette spiration éternelle d'amour de l'Esprit Saint. Ce ce qui ferait comprendre que le sacerdoce chrétien, dans ce qu'il a d'ultime, c'est de coopérer à l'envoi de l'Esprit-Saint. Le prêtre est celui qui impose les mains pour que l'Esprit-Saint soit donné. Ceci est vrai du sacerdoce chrétien et donc du sacerdoce ministériel et du sacerdoce mystique des fidèles. Alors évidemment, ce serait par là qu'on pourrait comprendre certains gestes d'imposition des mains du prêtre en premier lieu. Mais aussi peut-être au point de vue charismatique du fidèle. Si la grâce chrétienne est une grâce sacerdotale, elle implique nécessairement d'être une grâce qui nous unit au Verbe en tant qu'il est un avec le Père pour donner l'Esprit-Saint. C'est pour ça que ce petit passage est très très important au point de vue théologique. Et il s'agit de comprendre justement ce que ça représente hein, dans l'ordre de la grâce chrétienne. Dans l'ordre de la grâce chrétienne, notre grâce est une grâce sacerdotale. Si elle est sacerdotale, elle est liée à celle de Jésus, elle ne fait qu'un avec celle de Jésus, et elle s'achève dans le don de l'Esprit-Saint. C'est peut-être le caractère propre du sacerdoce chrétien. Alors, le caractère, mettez ultime, le caractère propre du sacerdoce chrétien ministériel, oui, le caractère propre du sacerdoce chrétien ministériel, c'est l'Eucharistie. Le caractère propre du sacerdoce chrétien tout court, ministériel et mystique, c'est de donner l'Esprit-Saint. Il s'agit de bien préciser ça, hein, pour ne pas dire de bêtises, parce que c'est très très délicat, mais c'est important, puisque Vatican II nous demande de préciser exactement ce qu'est le sacerdoce royal des fidèles et le sacerdoce ministériel. Le sacerdoce ministériel, le Saint-Père l'a précisé. Il l'a dit dans sa lettre au Jeudi Saint, aux prêtres, il y a quelques années, il y a 2 ans, je crois, en disant que le sacerdoce ministériel se définit par l'Eucharistie. L'Eucharistie est la raison d'être du prêtre. Donc, on peut dire que le sacerdoce ministériel se définit par l'Eucharistie. Et le sacerdoce royal des fidèles se définit par le don de l'Esprit-Saint. Si nous comprenons bien ce verset 5. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient d'auprès de toi, car les paroles que tu m'as données, je leur ai données et eux les ont reçues. Et ils ont connu vraiment que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Donc Jésus montre les intentions profondes de son cœur, l'intention apostolique de son cœur sacerdotal. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. C'est le Père qui donne au Fils ceux qui doivent être les brebis de Jésus. C'est le Père qui les donne. Notre lien premier est avec le Père. Il ne faut pas l'oublier. Je sais très bien, nul ne peut connaître le Père que par le Fils. C'est dit. Mais il est dit aussi que ce lien premier, il est avec le Père. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Donc c'est toujours ce lien premier avec le Père. Ce n'est pas la première fois qu'on a vu ça. On l'a déjà vu plusieurs fois. Que c'est l'attraction du Père sur nous qui est le lien premier de toute notre vie divine. C'est le pire qui nous attire. Et c'est le pire qui nous donne son amour, sa miséricorde. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il nous aime pleinement dans son Fils. Et tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient d'auprès de toi. Car les paroles que tu m'as données, je le leur ai données, et eux les ont reçues, et ils ont connu vraiment que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Vous voyez que toute la mission profonde de Jésus, c'est de révéler qu'il est l'envoyé du Père. Ça, c'est tout à fait typique à saint Jean. Et c'est très fort, hein, parce que plus on essaie de comprendre cela, plus on voit que c'est la mission de Jésus, il est l'envoyé du Père, c'est la mission même de Jésus qui est ce qu'il y a de plus grand en lui. L'envoyé du Père, c'est celui qui vit du Père et qui ne peut que nous communiquer la vie du Père. Qui ne peut nous communiquer que la lumière qu'il a reçue du Père, tout ce qu'il a reçu du Père, il nous le donne. Et c'est cela le propre, justement, du mystère du Fils, en qui le Père met toutes ses complaisances. C'est parce que le Père met toutes ses complaisances en lui qu'il peut communiquer tous les secrets du Père, toute la lumière du Père, tout ce qu'il a reçu du Père, et qu'il ne garde rien pour lui. Il est l'envoyé. C'est pour eux que moi, je prie. Alors ça aussi, c'est très beau pour comprendre ce que c'est que la prière apostolique. La prière de l'apôtre. La prière du Fils bien-aimé en tant qu'il est l'envoyé du Père. C'est pour eux que moi, je prie. L'apôtre ne peut prier que pour ceux vers lesquels il est envoyé. Toujours. Il doit toujours les porter dans sa prière. Si son sacerdoce est un sacerdoce contemplatif, c'est un sacerdoce de miséricorde. Et parce que c'est un sacerdoce de miséricorde, la première œuvre de miséricorde, c'est de prier pour ceux que la Providence met auprès de nous. Alors ça, c'est très beau parce que c'est commun, voyez, au sacerdoce ministériel et au sacerdoce royal des fidèles. Un frère qui n'est pas prêtre doit porter dans sa prière tous ceux que ses frères atteignent par la parole, par le contact. Et lui doit comprendre qu'il porte dans sa prière tous ceux que ses frères toucheront par la parole et que son acte de miséricorde de les porter par la prière est quelque chose de plus radical et de plus profond que l'apostolat proprement dit. Autrement dit, la dimension la plus profonde de l'apostolat, c'est la prière. C'est la dimension la plus radicale. Parce que celle-là, elle n'a pas de limite. C'est de porter ceux qui vers lesquels un apôtre est envoyé. Vous voyez, la mission de la contemplation, la prière contemplative implique justement ce regard de miséricorde apostolique. Prier pour ceux qui sont proches de nous, proches de nos communautés, proches de nos frères qui prêchent. On les prend dans notre prière, on les porte dans notre prière, on les enveloppe dans notre prière pour en les offrir à Dieu. C'est pour eux que moi je prie. C'est très significatif, ça. Ça, c'est très important. C'est par là qu'on maintient, vous voyez, une âme apostolique. C'est dans cette prière constante à l'égard de tous ceux que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Jésus les connaît. C'est pour eux que moi je prie. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Alors là, c'est la totale confiance dans le Père. Et je crois que c'est ça qui nous est montré. C'est cette confiance totale du Fils à l'égard du Père. Le Fils ne veut pas avoir, vous voyez, sa clientèle, hein, si j'ose dire. Parce que ça existe de temps en temps, ça. N'est-ce pas ? Alors on a cette petite clientèle. C'est contraire absolument à la grande prière sacerdotale de Jésus. Nous prions pour ceux que le Père nous donne et pas pour les autres. C'est très catégorique, ça. Ça peut scandaliser quand on le comprend mal. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as en donné, parce qu'ils sont à toi. Parce qu'ils sont à toi. Vous voyez, la prière de l'instrument. Le sacerdoce fait de nous des médiateurs. Si on est médiateur, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est celui qui nous envoie. C'est celui qui nous a choisis, c'est celui-là qui nous envoie. Donc la prière du médiateur comme médiateur n'est pas la prière pour le monde, mais la prière pour ceux qui nous sont donnés par le Père. Il faut bien reconnaître que la plupart du temps, on a complètement perdu ce sens-là. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, on n'a plus beaucoup le sens de l'instrument. On a très très fort le sens de la cause seconde, donc de l'autonomie de celui qui est cause seconde. Et on a très très peu le sens de ce que représente le point de vue de l'instrument. L'instrument, je vous l'ai déjà dit, hein, mettez-vous ça bien dans la tête et dans le cœur. L'instrument regarde en premier lieu la main de celui qui le conduit, que l'effet qu'il réalise. Si on vivait de ça, on serait toujours très heureux. L'instrument regarde en premier lieu les intentions de celui dont il est l'instrument, plutôt que de regarder les résultats. Il n'y a rien qui nous chagrine plus que quand on regarde les résultats. C'est évident. Parce que c'est toujours piètre. C'est jamais énorme. Et si c'était énorme, on se glorifierait. Et alors on serait encore plus malheureux. Tandis qu'au contraire, quand on regarde la main de celui qui nous conduit, alors c'est la confiance dans le Père. Notre prière est enveloppée de cette confiance dans le Père, prière sacerdotale, prière du Fils bien-aimé. Il ne peut pas prier pour autre chose, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et en eux je suis glorifié. C'est très très fort ça. Pour découvrir l'instrumentalité du cœur de Jésus. Pour découvrir combien Jésus est totalement entre les mains du Père. Combien Jésus est vraiment entièrement instrument d'amour. Et c'est ce qu'il y a de plus grand. C'était le Père de haut qui me rappelait tout le temps, ce qu'il y a de plus grand dans une vie apostolique, c'est d'être par moments instrument de Dieu. C'est pas ce que nous faisons comme cause seconde, non, pas du tout. Ça, c'est jamais très, très élevé, ça ne vole jamais très haut. Tandis que quand nous faisons quelque chose comme instrument de Dieu, c'est éternel. Ça a toute la dimension de Dieu. C'est Dieu qui se sert de nous. Alors, nous devons demander ça. Ça fait partie de la prière de Jésus. Et c'est très très fort de considérer que notre vie apostolique, elle est entièrement mandatée. On est des envoyés. Oui. Le souci du reste de l'obéissance dans la vie religieuse, c'est ça d'être mandaté, d'être pleinement mandaté. D'être des envoyés et donc d'accomplir la volonté de celui qui nous envoie. Et je ne suis plus dans le monde. Et eux sont dans le monde, et moi je viens vers toi, Père Saint. Garde-les dans ton nom que tu m'as donné, qu'ils soient un comme nous. Je m'excuse, je suis obligé de partir, ça fait partie de... Je vais aller à Reims, alors je vous porte à Reims. Hein. Je dirai au Père Abbé que vous priez beaucoup pour lui. Il n'est pas là, mais ça ne fait rien. Je dirai ça au Père Joseph, n'est-ce pas, que vous priez beaucoup pour lui et que nous restons très unis à Reims par le cœur et par la prière. Alors priez pour que tout se passe bien. Je reviendrai normalement mardi. Je m'excuse, une toute petite semaine. Hein.